Radio Barque, un invité sur Grand Sud FM pour mieux connaître ceux qui font l'actualité régionale. Radio Barque, c'est le 9e pour notre 10e saison. Je reçois aujourd'hui Bertrand Malquier, bonjour.
Bonjour Jean-Claude Jules, bonjour vos auditeurs.
Alors Bertrand Malquier, vous êtes depuis peu de temps, et les auditeurs auront suivi l'actualité, j'imagine, maire de Narbonne et président du Grand Narbonne. Donc les choses se sont faites dans des conditions que beaucoup d'auditeurs ont suivies. Alors pour vous, une transition qui sans doute a été assez dure vu les circonstances. Mais d'un autre côté, vous étiez depuis fort longtemps collaborateur très très proche de Didier Mouly, ce qui peut-être a aidé un petit peu à une succession moins brutale.
C'est ça, ça fait 10 ans que nous partageons la vie publique avec Didier Mouly et je suis première adjointe de la ville depuis 10 ans. Nous nous connaissons depuis toujours avec Didier Mouly, donc nous avons eu un parcours commun à la fois amical, professionnel et politique, et ce qui a facilité la reprise en main des affaires municipales et au conseil communautaire, puisque les élus communautaires m'ont accordé leur confiance dans ce projet de continuité de l'objectif Grande Narbonne 2030.
Oui, alors ça c'est alors je sais pas si c'est un débat, en tout cas certains se posent la question, faut-il dans ces cas-là que le maire de la ville-centre soit également président de l'agglo? Certains disent que c'est du cumul des mandats. Et d'un autre côté, quand ça n'est pas le cas, on s'aperçoit que ça crée des problèmes plus que des solutions.
Alors, c'est facilitateur d'être fois président du Grand Narbonne et maire de la ville de Narbonne, puisque aujourd'hui, la ville-centre permet les mutualisations avec l'outil Grand Narbonne. Après, ce n'est pas une obligation légale, évidemment. Donc, c'est le choix qui est fait par les élus communautaires. Et je pense que Didier Mouly avait ouvert une voie en montrant ce qui était possible de faire. Et le postulat de départ, c'est un village ou une ville a la même importance à l'échelle de l'agglomération, et en revoyant le cahier des charges de fonctionnement du pacte fiscal, on a mis en place une enveloppe de 10 millions d'euros par exemple pour accompagner dans un élan de solidarité financière toutes les communes de l'agglomération à la même échelle que la ville de Narbonne.
Oui, puis il y a une telle imbrication dans les compétences que effectivement cela facilite les choses.
Ça facilite les choses. Une des compétences importantes du Grand Narbonne, c'est la compétence économique. Et effectivement, le cœur économique de notre territoire, c'est la ville-centre.
C'est la ville-centre, forcément. Oui. Il faut que les choses soient claires et que les auditeurs comprennent pourquoi ce cumul des mandats est nécessaire et finalement il est sain. Dans le fonctionnement quotidien.
Il sert l'intérêt général de l'ensemble du territoire. On déplace le curseur du maire sur sa commune, sa ville, et on élargit cette réflexion à l'ensemble de notre territoire, qui est un vaste territoire composé de 37 communes. Et aujourd'hui, je pense que les habitants identifient mieux peut-être aussi le maire de la ville et le président de l'agglomération par cette double compétence.
Alors dans ce Radio Barque qui comporte traditionnellement 3 parties, on va en consacrer une première à la ville, si vous le voulez bien, Bertrand Malquier. La seconde, on la consacrera
à l'agglomération.
C'est logique. Et la troisième, un petit peu plus à votre expérience personnelle. Et puis, à nouveau Narbonne, parce que je crois qu'il ne faut pas oublier cette notion-là également.
Ah, je ne l'oublierai pas, non.
Alors, on est en plein dans l'actualité, là. Le pont des marchands, grande satisfaction. Il rouvre avec un petit peu d'avance ce vendredi 1er décembre. Et il est ouvert donc à partir de ce moment-là. Les travaux ont été beaucoup plus rapides que prévu.
Alors les études. Alors je rappelle vite fait le contexte, Jean-Claude Jules, si vous me le permettez. Un collège d'experts, un tribunal administratif a nommé un collège d'experts. Ce collège d'experts a constaté la dangerosité imminente et la faillite structurelle du pont des marchands. Pas sur sa partie publique, mais sur la partie privative. En fait, il faut comprendre qu'il y a une voûte romaine qui est publique, c'est la partie publique.
Une des 7 arches, paraît-il.
Et non, une voûte romaine et des arches ensuite qui sont perpendiculaires à cette voûte sur lesquelles reposent, ce sont des propriétés privées sur lesquelles reposent les immeubles. C'est un des deux ponts
habités. Voilà, toutes les boutiques qu'il y a de chaque côté.
En France, c'est exactement ça, les arches qui sont sur les côtés et la voûte. La voûte est publique, les arches sont privatives et c'est ces arches qui ont des défauts structurels qui sont liés à plusieurs causes différentes, en particulier les infiltrations et l'humidité, qui menaçaient ruine, qui menaçaient effondrement. Donc le tribunal administratif a nommé ce collège d'experts, qui a rendu ses conclusions et qui a obligé le maire de la ville à prendre un arrêté de fermeture. À partir de là, des études, en fonction des prescriptions qui étaient établies par le collège des experts, ont nécessité des études complémentaires pour savoir comment pouvions-nous sécuriser, dans des délais assez rapides, le pont des marchands. Ces études ont été assez longues. Il a fallu calculer, par exemple, les charges descendantes, le poids des immeubles sur la structure et connaître quels étaient les moyens de pouvoir stabiliser et sécuriser le pont. Les travaux d'urgence ont été décidés. La ville a décidé d'avancer les fonds pour aller plus vite. Et c'est 1 million d'euros qui ont été mis sur la table entre les études et les travaux eux-mêmes pour aller très rapidement vers une réouverture du pont. Alors, il y a eu des choix qui ont été faits, des choix qui ont été courageux hein, de la part des élus. Les agents de la ville se sont vraiment mobilisés. L'entreprise qui a été choisie et ses ouvriers ont mis du cœur à l'ouvrage pour réaliser dans des temps records cette opération. Et effectivement, aujourd'hui, vendredi 1er décembre, le pont va pouvoir réouvrir à la circulation. Mais attention, des commerces qui sont toujours dans le périmètre de sécurité ne pourront pas réouvrir. Donc voilà, les commerces qui ont été fermés, eux ne pourront pas réouvrir immédiatement. Il faudra attendre les travaux définitifs.
Voilà, là c'est le passage qui est ouvert.
C'est le passage qui est ouvert, mais...
C'est important ça quand même.
C'est plus qu'important, Jean-Claude Julias. On s'est aperçu que c'était véritablement un flux circulatoire marchand indispensable à la ville. C'est quand quelque chose manque ou quelque chose est fermé qu'on s'aperçoit de son importance. Et depuis la fermeture, eh bien, c'était complexe. À la fois pour les commerçants de la rue Parory, des Quatre Fontaines, de la rue Raspail, ça coupait la ville véritablement en deux. Et ce n'était plus possible. Il fallait véritablement redonner dans cette période des fêtes et de Noël une bouffée d'oxygène aux commerçants. C'est pour ça que nous avons été très réactifs et nous avons suivi de très très près ce dossier. Donc aujourd'hui, c'est un satisfait site pour les élus, les agents qui sont vraiment mobilisés, que je tiens à remercier sur ce dossier. Et je suis soulagé surtout pour les commerçants de la ville de Narbonne, de cette partie de la ville de Narbonne.
Voilà, même s'il reste quelques boutiques, alors là, ça prendra plus de temps, d'autant plus que ça regarde des propriétaires privés.
Ce sont les propriétaires privés, donc même la première partie de ces travaux d'urgence sont à la charge des propriétaires. La ville en a fait l'avance, mais recouvrira les sommes. La deuxième partie, qui sont les travaux définitifs, dont les montants risquent d'être un peu plus élevés encore, bien cette partie va commencer dès la fin des février, en janvier, et nous allons mettre tout en œuvre là aussi pour que dans des délais les plus courts possibles, l'ensemble des commerces puissent réouvrir.
Oui. Mais c'est au propriétaire que ça incombe ou à la ville ?
C'est au propriétaire.
C'est au propriétaire.
100% des travaux sont d'ordre privatif et c'est donc au propriétaire de faire réaliser ces travaux.
Voilà. Enfin, en tout cas, donc, la bonne nouvelle au moment où les ferries commencent sur la ville de Narbonne, c'est que cet axe
piéton,
véritablement fondamental, je crois que vous l'avez fait ressortir, Bertrand Valquier, il fonctionne à nouveau pleinement.
C'est ça.
Alors, restons quand même tout près avec un regard sur l'hôtel de ville et ce qu'on appelle la marquise, cet auvent là qui a devant le magasin Monoprix et le magasin Labo. Alors là, pareil, c'est un problème qui dure depuis un certain temps, qui est assez complexe aussi juridiquement.
Ça a été un cumul de mauvaises nouvelles. C'est l'usure du temps, les dégradations structurelles, à la fois du pont des marchands et de cette marquise. Cette marquise, eh bien, il y a eu quelques effondrements de plaques vitrées et une défaillance structurelle. Cette marquise est privative et deux propriétaires, donc le magasin Labo d'un côté et le magasin Monoprix qui est le locataire, le propriétaire et Generali, ont dû réaliser des travaux. Donc la ville a été coordinatrice. De la même façon, c'est similaire au pont des marchands, la ville a coordonné les études et coordonne les travaux, donc il y a dû avoir un échafaudage. On arrive là aussi dans la période des fêtes, c'est un moment intense pour les commerçants, pour le tourisme également. Donc on a trouvé une solution intermédiaire pour cacher, on cache misère qui est le l'habillage de l'échafaudage, c'est un terme anglais, hein, le covering, qui permet de dissimuler tout l'échafaudage. Et on a choisi, on a pris le pari sur une idée de l'adjoint à la culture Yves Penet, de faire une rétrospective historique au fil du temps, l'histoire des Dames de France, avec une BD sur le niveau bas de l'échafaudage et une toile noire qui est tendue sur le dessus, ce qui permet, entre la réouverture du pont des Marchands et cet habillage, et les féeries, Madame Rapina a installé ces féeries qui seront inaugurées samedi 2 décembre sur la place de l'Hôtel de Ville avec symboliquement l'allumage de toutes ces lumières LED, eh bien, ça permet de retrouver cette joie de vivre et ce cœur magnifique historique de Narbonne.
Voilà, donc c'est un peu Noël finalement pour cette partie-là de ce centre.
En tout cas, c'était la commande au Père Noël des élus de la ville de Narbonne.
Oui. Bon. Alors, à propos des problèmes donc du centre-ville, on parle beaucoup de problèmes de parking, par exemple ces temps-ci, au niveau de l'hôpital. Alors là encore, les gens ne comprennent peut-être pas très bien ce qui se passe. Alors, Bertrand Maltier, dites-nous.
Alors, l'hôpital, c'est le plan Saint-Paul. Alors, je vais resituer là aussi le contexte. Il y a plusieurs années en arrière, un choix audacieux a été fait, c'est d'avoir un hôpital public en cœur de ville, avec tous les avantages que ça amène, une proximité immédiate de ce service hospitalier, mais également 1500 agents aujourd'hui hospitaliers qui, eh bien, alimentent les restaurants, les commerces du cœur de ville. Donc, un choix audacieux a été fait, et un choix audacieux qui aujourd'hui, malgré que certains annoncent le tout vélo ou le tout piéton demain, nous en sommes très très loin, Jean-Claude Jules. L'automobile est très présente dans les usages des ménages français et narbonnais pour l'occurrence, et donc il y a des conflits d'usage au niveau du stationnement. Donc le stationnement, aujourd'hui le plan Saint-Paul, avec le Covid, l'hôpital maille son territoire, un deuxième IRM arrive sur Narbonne, un nouvel centre de consultation a investi le plan Saint-Paul, et il y avait un îlot de 40 places de stationnement qui était utilisé par les véhicules, et donc la direction de l'hôpital a fait un choix pour permettre à 40 usagers, 40 patients, avec un turnover, hein, puisque c'est lors des consultations, ils ont un QR code ou un codage pour pouvoir accéder à ce parking de 40 places. Et en dehors des heures de consultation, eh bien, ce parking est réservé aux agents hospitaliers de l'hôpital de Narbonne. C'était difficile pour la direction de l'hôpital d'attribuer 40 places de stationnement à 1500 agents hospitaliers.
De toute façon...
Je me mets à la place du directeur. Quel choix devait-il faire? Les attribuer aux aides-soignantes, aux infirmiers, chacun a son importance dans cette fourmilière hospitalière. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la position du directeur et de l'exécutif de l'hôpital a été la bonne. C'est un choix médian avec, sur un complément de Maraussan qui, pour ceux qui travaillent tard le soir, est un peu lointain, un peu anxiogène. Eh bien, le personnel qui travaille à des heures très matinales ou très tardives le soir pourra se stationner. Et en même temps, eh bien, les patients qui alimentent économiquement l'hôpital pourront avoir ce stationnement. Les patients ont des rendez-vous d'une heure, donc c'est 40 véhicules toutes les heures qui pourront être pour renouveler, qui vont permettre l'accès à l'hôpital public.
Voilà, merci pour ces explications, et en espérant que les auditeurs finissent par comprendre pourquoi de telles décisions ont été prises. Bertrand Maltier, on marque une première pause, on se retrouve pour une seconde partie dans laquelle on restera encore un peu sur votre ville, si vous le voulez bien.